Guestbuch.
Livre d'or.
Libro degli ospiti.
Chaque semestre, la chaire de littérature et culture française de l'École polytechnique de Zurich invite une personnalité du monde francophone à tenir, pour les étudiants et étudiantes de l'EPFZ, un cours sur des thèmes de littérature, de culture, d'histoire ou de philosophie. Dans notre podcast, nous discutons avec nos hôtes de leurs œuvres, de leur vie personnelle et des questions qui vont au-delà du cours. Nous, ce sont Charlotte Meissner
et Yeshe Gao. Bien retrouvés à cet épisode spécial du podcast où le professeur invité Didier Ripon invite Geoffroy de Laganerie, philosophe et sociologue, pour un échange sur les limitations et les possibilités de l'engagement politique de l'art.
Geoffroy de Laganerie est sociologue et philosophe. Il est professeur à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy et il forme, ensemble avec Didier Héribon et Édouard Louis, un trio intellectuel. Comme un triangle, un signe d'alerte qui communique aux autorités « Attention, nous observons, nous commentons et nous n'accepterons pas tout simplement vos actions ». Dans cette leçon finale du cours « Les mondes de la littérature » de Didier Héribon, Geoffroy de Laganerie présentera ses livres « Penser dans un monde mauvais »,« L'art impossible » et son projet de définir un art oppositionnel. Nous parlerons d'engagement et d'autonomie, de création et de politique, de Sartre et de Bourdieu. Bienvenue Geoffroy de Laganerie.
Bonjour à tous, bonjour Didier.
Bonjour à tous et à toutes. Le livre de Geoffroy de Laganerie dont je vais parler aujourd'hui, dont il va parler, L'art impossible et Penser dans un monde mauvais, tous les deux parus aux presses universitaires de France. Je vais commencer par L'art impossible et je vais commencer par le début de L'art impossible où Geoffroy de Laganerie écrit « Je suis tombé un jour sur l'ouverture de ce qui reste des plus beaux livres de Marguerite Duras, La douleur. Cet ouvrage est un journal. Duras y parle de la déportation, des camps de concentration, de l'attente du retour des camps de son mari, Robert Anthelme. Duras présente ainsi l'ouvrage. C'est une citation. « J'ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleues de Naufle-le-Château. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture. » Et le détail de ce que je raconte, je revois l'endroit, la gare d'Orsay, les trajets. Mais je ne me vois pas écrivant ce journal. Quand l'aurais-je écrit? En quelle année? À quelles heures du jour? Dans quelle maison? Je ne sais plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est que ce texte-là, il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert. Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis? Comment ai-je pu même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison de campagne, régulièrement inondée en hiver. La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. » Et là, après avoir cité ça, Geoffroy commente « Et voilà le passage que je veux souligner. » Et Geoffroy cite « Le mot « écrit » ne conviendrait pas. Je me suis trouvé devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvé devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher, et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. » Et évidemment, la question que pose Geoffroy de Laganerie, c'est qu'est-ce que signifie avoir honte de la littérature? Un très magnifique texte de Marguerite Duras en ouverture de son livre magnifique « La douleur ». Et étant donné ce qu'elle raconte dans ce livre, l'idée littéraire, la littérature, lui ferait honte. Donc, ce n'est pas de la littérature. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir honte de la littérature? Et c'est le point de départ de Geoffroy, puisqu'il dit « Ce sentiment de honte ne pourrait-il pas constituer le point d'ancrage d'une réflexion sur la culture, sur la valeur de pratiques comme l'art, la danse, la musique ou la littérature ?» Donc, je laisse la parole à Geoffroy. Cette ouverture très forte, très brutale, on peut dire, en s'inspirant d'un texte de Marguerite Duras, lui-même très fort et très brutal. Au fond, toute la question que tu veux poser, c'est si Marguerite Duras a honte de la littérature, si ce livre lui, parler de littérature pour ce livre lui ferait honte, est-ce qu'on peut pas généraliser la question de la honte? Qu'est-ce que c'est qu'avoir honte de la littérature? Et au fond, la question que tu poses, d'ailleurs, tu dis un peu plus loin que tu avais pensé appeler ton livre l'art, virgule, la honte. Est-ce que on ne pourrait pas se poser la question de la honte pour toutes les productions littéraires, artistiques, musicales, etc.?
Oui, absolument. Mais en effet, moi, je pense que la honte, c'est le sentiment éthique par excellence. Et je pense que c'est le sentiment autour de quoi toutes les subjectivités des individus qui produisent des biens symboliques sont en fait organisées. Je pense que la question de savoir qu'est-ce que je fais quand je fais de l'art, qu'est-ce que je fais quand je fais de la théorie, qu'est-ce que je fais quand je fais de la sociologie ou quand je fais de la peinture, etc. Et surtout, quel est le sens de cette activité en regard de la mauvaiseté, de la dureté, de la réalité du monde, constitue un peu l'affect fondamental à travers lequel tout producteur de biens symboliques, enfin, auquel tout producteur de biens symboliques se débat avec, en quelque sorte. Qu'il n'est pas possible de produire de la peinture, une pièce de danse, une symphonie, etc., sans, d'une certaine manière, consciemment, inconsciemment, en l'assumant, ne l'assumant pas, etc., se poser la question de est-ce que tout ça, par rapport à la réalité du monde, par rapport au fait que des gens meurent de faim, par rapport au fait qu'il y a des clochards, etc., bah, ça fait honte. C'est-à-dire, voilà, en quelle est l'élaboration, la sophistication, le concert, etc., la cérémonie culturelle que représente un vernissage de galerie, etc., de quelle mesure est-ce qu'il est possible de d'éprouver et de vivre ses vies de loisirs, en fait, et ses vies de plaisir esthétique, sans éprouver une forme de honte par rapport à le temps ou l'argent qui pourrait être consacré à tout un ensemble d'autres choses. Moi, j'ai toujours dit, hein, voilà, la vérité du monde, c'est notre rapport à la honte, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que nous pouvons, étant donné la réalité, on en parlera du champ culturel, de la sociologie culturelle ou la réalité du monde, produire des activités créatrices en assumant l'interpellation durassienne, c'est-à-dire en assumant le fait de ne pas avoir honte de ce que l'on fait et de pouvoir y répondre devant la difficulté ou la réalité de la société en vérité, c'est-à-dire sans se réfugier derrière des mythes. Je pense que l'art est la preuve que le monde de l'art est un monde de mauvaise foi, en fait, c'est-à-dire un monde qui essaie de s'inventer une nécessité tout en sachant qu'il y a quelque chose d'un peu honteux dans les activités culturelles étant donné la réalité du monde, s'ancre dans les lieux communs, en fait, qui sont toujours produits ou énoncés lorsque on veut justifier l'art, lorsqu'on va parler de l'art qui rassemble, ou de l'art qui crée une rupture avec le monde néolibéral, ou de l'art qui transforme les affects, ou de l'art qui est le lieu de la communion, ou de l'art qui est le lieu de la sensibilité, etc.
Bon, je pense pour rester quelques instants sur la question de la honte, c'est une question que nous avons, d'une certaine manière, traversée tout au long de ce semestre et de ce séminaire, notamment quand nous avons parlé de Annie Ernaux, notamment son livre « La place », où elle dit « La place, ça n'est pas un roman, parce que pour décrire des vies soumises à la nécessité, c'est-à-dire à la brutalité du monde social, la violence, l'oppression, la pauvreté, etc., pour décrire ça, on ne peut pas faire de la littérature. » Et donc, au fond, Annie Ernaux et Marguerite Duras disent des choses à peu près similaires. Il y a des choses, comment dire, ce serait presque, on aurait honte de faire de la littérature sur les réalités décrites. Alors, chez Duras, qui est la tante de son mari, qui est dans un camp de concentration et attend son retour. Chez Ernaux, dans la place, la vie de son père, ou dans une femme, la vie de sa mère, qui sont des vies marquées par ce qu'elle appelle la nécessité, c'est-à-dire l'appartenance aux classes dominées, infériorisées, et dont les métiers sont extrêmement, les vies extrêmement dures et difficiles. On a parlé à peu près de la même chose quand nous avons reçu Édouard Louis, qui, dans son dernier livre, Combat et métamorphose d'une femme, dit « J'écris contre la littérature, parce que la littérature ne parle pas des gens comme ma mère, n'est pas lue par des gens comme ma mère, mais ne parle pas des gens comme ma mère, et même est comme faite pour ne pas parler des gens comme ma mère, et donc il veut écrire contre la littérature. Et il aurait honte, lui aussi, de faire de la littérature sur son père, sur sa mère. Il y a ici le sentiment de honte qui est très puissant. On en a parlé à propos de Jean Genet, d'ailleurs, qui installe la honte au cœur de son projet littéraire, pas la sienne d'écrire, mais celle des personnages qu'il décrit et qu'il veut réhabiliter. Donc, le sentiment de la honte est quelque chose de très, très puissant. Néanmoins, la question des, comment dire, on peut avoir honte d'écrire, avoir honte de publier, avoir honte de publier ça. Tu cites une célèbre phrase de Sartre dans un entretien où Sartre dit « Que vaut la nausée ?» Donc, son livre de 1938, je crois, son célèbre roman « Que vaut la nausée face à un enfant qui meurt de faim ?» Donc, si on met en balance la littérature et la réalité du monde, la réalité du monde mauvais, comme tu l'appelles, la littérature ne tient pas. La réalité du monde nous permet d'interroger la littérature et le geste littéraire. La question que je voudrais te poser, c'est quand tu commences un livre comme ça, quand tu interpelles tout le champ littéraire, artistique, tous les champs de production à partir de la notion de honte, est-ce que vous avez honte de ce que vous faites quand vous comparez à la réalité du monde? Et Sinon, c'est un problème. Et si oui, comment faire pour ne plus avoir honte? Alors là, ça ouvre sur des questions, évidemment, que tu déploies dans ton livre, qui sont une série d'analyses, de réflexions, de remarques, de suggestions. Donc, je vais te poser la question simplement. La littérature face à la honte, ou la littérature devant la honte, comment sortir de cet affrontement?
Oui, alors déjà, peut-être pour revenir sur les présupposés qui sont derrière le... Qu'est-ce que ça veut dire mettre la honte au centre d'une interrogation du champ de l'art? Je pense que d'abord, pour moi, l'idée, c'est de mettre la politique au point de départ de l'interrogation des champs culturels ou des champs scientifiques. C'est-à-dire que très, très souvent, en fait, quand on réfléchit sur l'art engagé, la littérature engagée, ou même la science sociale engagée, la philosophie engagée, très souvent, la manière dont le problème est posé consiste à dire de quelle manière est-ce que les écrivains peuvent prendre la parole dans l'espace public, de quelle manière est-ce que les sociologues, les historiens, etc., peuvent intervenir dans le débat public, et on va penser toujours à la question de l'engagement sur le mode de forme symbolique ou de pratiques symboliques qui sont données, en vérité, l'écriture, la science sociale, etc. Et ensuite, on se pose seulement la question, dans un second temps, d'aller dans le champ public, d'aller dans les journaux, d'aller dans la rue pour manifester, pour être activiste, pour influencer, etc. Et donc, c'est comme si la politique arrivait dans un second temps et que les pratiques symboliques, leurs formes, leurs méthodes, leurs modalités, en vérité, étaient données et étaient quelque chose qui échappait, en quelque sorte, à la politique. En mettant la honte au centre de l'interrogation, pour moi, je veux produire une espèce de renversement qui consiste à mettre un peu comme Trump dit America first, politics first. C'est-à-dire, en gros, le point de départ et l'objectif d'abord, quand on décide d'écrire, c'est qu'on s'engage. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas obligé de s'engager. On a été jeté au monde arbitrairement. On est très majoritairement totalement pris malgré soi dans des systèmes de pouvoir qu'on n'a pas choisis. Une certaine forme d'apathie ou une certaine forme d'indifférence radicale par rapport au monde et une attitude légitime, en vérité. Je pense qu'on n'est pas obligé, en vérité, éthiquement de s'engager. Mais une fois qu'on décide d'écrire, une fois qu'on prend la peine de publier des mots ou de publier des écrits, donc de participation à la construction symbolique du monde, en quelque sorte, eh ben, on s'engage. On est engagé, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on ne peut plus faire machine arrière et dire « je suis neutre, je ne suis pas engagé, je refuse la politique, etc. » On a décidé de faire partie des producteurs du monde, on a décidé de faire partie des gens qui produisent quelque chose qui produit le monde, et donc on est engagé. C'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. En d'autres termes, à partir du moment où on publie un livre, où on publie une recherche, où on s'engage dans cette idée bien symbolique, la question du rapport entre ce qu'on fait et le monde, et le sens que ça a par rapport au système de pouvoir, au système de domination culturelle, ou au système généraux d'ailleurs de domination, doit intervenir en premier, c'est-à-dire partir de quelle manière est-ce que je peux ne pas avoir honte de ce que je fais devant la société ou la société culturelle, de quelle manière est-ce que ce que je fais peut produire des différences ou alors au contraire va renforcer les systèmes de pouvoir, pour interroger mes manières d'écrire, mes manières de penser, mes manières de chercher, etc. Et donc, en quelque sorte, il faut que la politique arrive avant. C'est en partant de la nécessité politique de changer le monde et de ne pas y être collabo, en fait, de ne pas collaborer aux forces de reproduction du monde, qu'on doit interroger comment écrire, comment publier, quelles recherches on fait, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas de neutralité de la recherche ou de neutralité de l'écriture. La neutralité, ça n'existe pas. Toute recherche, toute écriture solidifie, perpétue, déstabilise ou met en question des systèmes très locaux, comme le système de l'édition, par exemple, ou très généraux, comme le système du racisme, du colonialisme, de la lutte des classes, peu importe. Mais voilà, donc tout le monde est engagé dans quelque chose, il n'y a pas d'art neutre. Et la conséquence de ça, c'est qu'en mettant la politique au point de départ, c'est-à-dire que c'est en partant des exigences politiques de ne pas être collaborateur avec le monde que je vais interroger ma pratique, que ça suppose de ne pas fétichiser les formes. Ça, je pense que c'est très, très important, c'est-à-dire que très souvent, les intellectuels sont un peu terrorisés par les artistes ou par les écrivains et pensent que toute critique un peu radicale de la littérature ou de l'art sera du populisme ou sera de l'anti-artisme ou sera un peu délicat et qu'il faudrait toujours accepter un peu la littérature et l'art comme un donné dont on expliciterait les enjeux, dont il est évident qu'il serait nécessaire de faire de l'art ou nécessaire de faire de la littérature et que ce serait toujours bien, etc. Et en quelque sorte qu'on ne pourrait pas avoir une position radicale, c'est-à-dire d'interroger des formes d'art et de dire « oui, cette forme d'art-là me paraît collaboratrice ou mauvaise, cette forme d'art-là me paraît positive, etc. » Et qu'il n'y a pas de raison de considérer l'art comme un donné, mais qu'on peut très bien soumettre radicalement l'art à la critique et de considérer qu'on pourrait très bien soit ne plus en faire du tout. Après tout, il n'y a pas de nécessité que dans une société des gens dansent ou des gens peignent des tableaux, etc. C'est quelque chose qu'on peut très bien aller jusqu'au bout de l'interrogation. Et on a le droit de se poser ces questions. Une société, c'est un artifice, c'est construit, c'est décidé. Il n'y a rien qui s'impose à nous. Et il n'y a aucune raison de ratifier tout ce qui est donné comme du présent, comme devant toujours l'être et devant quoi on doit s'incliner. Bourdieu a un très beau texte là-dessus qui s'appelle le texte sur le musée où il dit on peut parier que si un jour il y avait un gouvernement prolétarien qui prenait le pouvoir en France, d'ailleurs ce serait pareil en Suisse, peu importe, même s'il voulait tout casser et tout changer, il y a fort à parier qu'il s'arrêterait à la porte des musées et qu'ils n'oseraient pas détruire les œuvres d'art. Et il pourrait détruire la Bourse, il pourrait détruire l'Élysée, il pourrait détruire la Tour Eiffel, je ne sais pas, mais le Louvre, ils n'oseraient pas y rentrer. Et en fait, il y a cette idée que dit Bourdieu selon laquelle les œuvres d'art exercent un terrorisme culturel peut-être encore plus puissant que la politique ou que l'armée ou que la police, etc. On peut très bien brûler des voitures de police, mais brûler un tableau, ça apparaît comme beaucoup plus subversif en quelque sorte, beaucoup plus bizarre. Donc comme s'il y avait un impensé de nos cultures sur la question culturelle qui était quand même un lieu qu'il fallait interroger dans son de ce que ça veut dire en quelque sorte.
En relisant ton livre L'art impossible hier et cet après-midi, je me suis souvenu d'un texte du grand historien de l'art Ernst Gombrich, autrichien, mais qui avait fui l'Autriche en 1936 en raison de l'arrivée du nazisme, et donc il s'était réfugié à Londres, il est devenu britannique. Dans un texte, dans un de ses livres qui s'appelle L'art et l'illusion, Art and Illusion, il fait une sorte de théorie psychologique de la perception, et il dit il n'y a pas de perception neutre, immédiate, innocente. Toute perception est hantée par des fantômes. Les fantômes des expériences que nous avons vécues, du passé, du monde dans lequel nous vivons, etc. Donc, c'est ce qu'il appelle les fantômes de la perception. Or, il est évident que toute personne qui écrit, toute personne qui produit de l'art, toute personne qui se trouve dans les champs de production artistique, littéraire, symbolique, etc., toute personne est hantée, toute pratique culturelle est hantée par des fantômes de la perception. Et donc, il n'y a pas d'art neutre, il n'y a pas de littérature neutre, parce que forcément, quand on écrit, ces fantômes de la perception façonnent les mots qu'on utilise ou les images qu'on met en scène, dans le, quelle que soit la manière dont on le fait, dans la pratique artistique. Donc, par exemple, l'existence des classes sociales est toujours déniée, refoulée, comme dit Sartre, les gens qui disent, quand on dit qu'il n'y a pas de classe sociale, celui qui dit ça se désigne comme appartenant à la classe bourgeoise. C'est parce qu'il y a des classes que quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas de classe sociale. Quand on écrit, il y a forcément un engagement, ne serait-ce que parce qu'il y a tout ce qu'on a dans la tête qu'on met dans le livre ou dans l'œuvre d'art. Cet engagement, il est assumé ou il est refusé, dénié. On dit non, moi, ce que je fais n'a rien à voir avec la politique, c'est pas engagé, c'est de l'art libre, émancipé de toute contrainte. De l'autre côté, il y a des gens qui disent, mais moi, mon art vise à montrer des réalités sociales et à prendre parti sur ces réalités sociales. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que toute pratique culturelle est marquée par une sorte d'engagement, qu'il soit conscient, non conscient ou même refoulé, refusé, dénié. La question que je voudrais te poser, c'est, en fait, ton point de départ n'est pas seulement que toute œuvre est engagée. Ton point de départ, c'est que même quand l'œuvre se veut politique, émancipatrice, révolutionnaire, radicalement confrontationnelle, oppositionnelle, elle est prise dans des dispositifs, la galerie, l'exposition, l'installation, la maison d'édition, les émissions de télévision, enfin tous les dispositifs culturels qui contrôlent forcément la circulation des œuvres culturelles. Donc, il y a dans ta démarche deux niveaux. L'œuvre est engagée parce qu'elle est engagée dans le monde, et toute œuvre qui se veut oppositionnelle participe quand même des dispositifs qui contribuent à la reproduction de l'ordre social, puisque, comme tu viens de le dire, le musée exerce une, ou la galerie d'art encore plus, exerce une fonction d'intimidation et donc une fonction d'installation, de production et de reproduction des classes sociales. Donc ici, il y a deux niveaux, mais indépendamment de ce contenu, l'œuvre la plus radicale, qui se veut la plus radicale, participe malgré tout des dispositifs sociaux de reproduction du monde tel qu'il est.
Oui, absolument, je crois absolument ça. Moi, je crois que ce que l'art impossible dit, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est que si on prend au sérieux la question politique, on va y revenir, mais il n'y a pas d'art qui peut échapper à la question politique, et que si on prend au sérieux la question de l'art politique, alors au fond, on peut être sceptique sur la valeur de l'art. Et au fond, c'est exactement ce que tu viens d'écrire sur les deux étapes, c'est qu'au fond, prendre au sérieux la question du rapport de l'art à la politique ou à la domination culturelle ne peut pas ne pas déboucher sur un grand scepticisme sur la valeur de l'art du point de vue de ce qu'il est. Et c'est en ça que l'art est toujours un peu, pour moi, une pratique un peu inauthentique. C'est-à-dire, en fait, l'art, il est toujours amené à revendiquer pour se fonder des valeurs qu'il ne va pas être capable de porter jusqu'au bout. Au fond, un art qui va se vouloir non engagé, formel, autoréférentiel, sera de fait pris dans des dispositifs de la domination culturelle qu'il va nécessairement agencer, reproduire, et donc il sera collaborateur des systèmes de la domination culturelle, et en ce sens, il ne peut pas se revendiquer d'une dimension non politique. Et en même temps, si l'art se dit, oui, alors puisque ça c'est vrai, je vais être politique, au fond, un art qui veut vraiment être politique, il doit se dire, il doit échapper à la forme esthétique. C'est-à-dire, si on prend au sérieux la question politique, au fond, il me semble qu'on doit renoncer à l'art. Il y a la très belle citation de Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, là, que j'ai relu pour notre conférence, qui dit « Et le massacre de Guernica, ce chef-d'œuvre, croit-on qu'il ait gagné un seul cœur à la cause espagnole ?» Ça, je pense que c'est très vrai. Je pense qu'il y a une fait de devoir être sceptique par rapport à la valeur politique de l'art qui me semble tout à fait fondamentale. Il y a une thèse que je cite dans qui revient sur les questions de la domination culturelle, mais il y a une thèse de Marcuse que je cite dans mon livre qui est le fait que, en fait, cet échec politique de l'art, il n'est pas un hasard du tout, il vient du fait que la pulsion esthétique est traversée déjà en tant que telle par un renoncement à la pulsion politique. C'est-à-dire, au fond, le fait de vouloir faire de l'art, le fait de vouloir créer et de s'inscrire dans quelque chose qui s'appellerait la dimension esthétique.
Oui, faire de l'art, c'est renoncer à faire la révolution, comme tu le résumes.
Ouais. En fait, ce que dit Marcus, c'est que le fait de vouloir produire quelque chose de l'ordre de l'esthétique, ça suppose d'avoir fait le deuil de l'ambition révolutionnaire dans la dimension réelle. Qu'au fond, les artistes, les écrivains sont des gens qui ont envie d'avoir un autre monde, un monde plus beau, moins répressif, plus parfait, etc. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas le créer ici et maintenant, comme ils sont en deuil, en quelque sorte, de leur capacité d'action concrète, ils vont maintenir cette ambition d'un monde meilleur, mais dans le lieu de l'illusion, en fait, ou du fantasme, qui s'appellera l'art. Et donc, en quelque sorte, un artiste, c'est quelqu'un qui fait le deuil de son ambition révolutionnaire, mais qui essaie de la maintenir à l'état de potentialité dans le domaine esthétique, sachant qu'il en a abandonné la concrétisation réelle, et qu'en ce sens, effectivement, faire de l'art, c'est décider de ne plus faire la révolution, c'est renoncer à la révolution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Marcus dit que les musées sont des lieux silencieux. Hein, comme tu sais, il a cette très belle idée que c'est pas du tout parce que ce sont des églises, en fait, qu'on regarde les œuvres d'art dans le silence, mais c'est parce que ce sont des tombes et qu'en fait, une œuvre d'art, c'est un
cimetière.
Un musée, c'est un cimetière d'ambition révolutionnaire, c'est-à-dire c'est voir comment les artistes ont géré leur renoncement à la révolution et à la libération. Cette idée selon laquelle, que dès qu'on est artiste et qu'on a un peu préféré l'art à la révolution, c'est même vrai chez Brecht. Alors, je l'ai découvert, c'est en lisant là encore pour aujourd'hui le texte dans Adorno, dans Notes sur la littérature, il parle de Brecht. Et Adorno dit qu'en fait, à la fin de sa vie, Brecht a dit que pour être tout à fait honnête, je cite, hein, le théâtre a plus d'importance à mes yeux que la transformation du monde. Et c'est Brecht qui dit ça. Et donc, ça montre qu'au fond, même quelqu'un comme Brecht, qui a toujours un peu justifié son théâtre par une forme de nécessité, alors d'ailleurs que je cite comme un modèle d'art non collaborateur en vérité, même lui, au fond, il a en tête cette idée que faire de l'art, c'est toujours un peu faire autre chose que faire de la politique, et c'est peut-être avoir déjà fait le deuil de changer le monde, voire de s'en désintéresser. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, on peut même aller assez loin dans cette réflexion-là, on peut se dire... C'est vrai qu'on sait que la plupart des artistes et le monde de l'art légitime est un monde, disons, plutôt de gauche, plutôt engagé sur des préoccupations, plutôt sensibles aux préoccupations sociales. Évidemment, il y a un air très conservateur et tout, dans la musique classique et tout, mais disons, dans le théâtre, dans l'art contemporain, dans la littérature, évidemment, il y a une domination quand même assez forte des thèmes de gauche et des grandes figures engagées, en tout cas, enfin, qu'on appelle engagées. Est-ce que c'est un hasard si le monde de l'art est tellement à gauche et si le monde est tellement à droite? Est-ce que c'est pas la preuve que les gens de gauche se réfugient dans la pratique esthétique, dans les pratiques artistiques, etc. C'est pas le fait qu'en fait il y a un espoir, mais c'est peut-être que la preuve que c'est perdu.
Que la droite domine le monde, la bourgeoisie domine le monde, la gauche qui veut lutter contre la bourgeoisie domine l'art et la littérature.
Et la question qui se pose, c'est jusqu'où c'est conscient, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que c'est un renoncement conscient? Ou jusqu'où c'est... Parce qu'à force de dire que l'art ne change rien, etc., si les gens continuent à faire de l'art, il y a forcément un peu une pulsion d'échec dans le fait de faire de l'art. C'est un peu une question...
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art transforme quelque chose, que l'art a une puissance transformatrice. Je crois que c'est au début de l'art impossible. Tu dis, bien sûr, quand on lit un roman, quand on voit une œuvre artistique, quand on assiste à un concert, on peut être très ému. Il y a des affects très puissants que l'on peut ressentir. Mais il faut... En gros, tu dis qu'il faut se débarrasser de ses affects parce que c'est précisément le privilège d'une classe bourgeoise qui a le monopole d'éprouver, de ressentir des affects en regardant une œuvre dans une galerie ou en lisant un roman ou en écoutant une œuvre musicale. Mais je veux bien que les affects soient une sorte d'auto, d'un narcissisme de la classe bourgeoise qui se délecte de ses affects. La littérature, la lecture, la contemplation des œuvres, l'écoute d'aller à l'opéra, aller au concert et tout ça. Mais les affects qui passent dans la littérature peuvent avoir des effets profondément transformateurs. Quand Genet écrit sur la honte comme le sentiment qu'il veut montrer en allant jusqu'au bout de la honte, qu'il veut décrire, dépeindre dans ses romans et réhabiliter, il veut jeter à la face du monde la honte, comme dans le défilé des travestis barcelonais, des Carolines, comme ils les appellent dans le journal du voleur. La honte ici, c'est un sentiment transformateur. Il décrit ça dans son roman, mais ça ne change rien. Mais en fait, l'œuvre de Genet, c'est une œuvre qui a des lecteurs. Ça a des incidences dans le monde social. De la même manière, je pense que les livres d'Annie Ernaux ou les livres d'Édouard Louis ont des effets. Et donc, si ces livres produisent des affects, ta manière de vouloir te débarrasser des affects dans l'art comme un simple narcissisme de la classe de loisirs qui peut se livrer à l'expérience esthétique, qui est interdite à la majorité du monde social, malgré tout, ces affects-là, ils peuvent être transformateurs. Je me souviens d'une phrase qui est un peu le point de départ de mon livre sur Jean Genet, justement, Une morale du minorité, d'une phrase de la grande théoricienne américaine Eve Kosofsky-Sedgwick, où elle parlait de la honte comme d'un affect transformateur. Ça donne une énergie transformatrice. La honte, c'est une énergie transformatrice. Et ça, je crois que c'est très vrai. Tu as un peu tendance à te débarrasser de tout ce que peut produire la littérature pour dire qu'en fait, elle ne produit rien. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point.
Ouais, déjà.
Si je puis me permettre.
Bien sûr. Non, mais je reviens sur ça. Je suis tout à fait pas forcément d'accord. Je pense que déjà, il y a une telle révérence pour la culture ou la littérature, d'ailleurs, dans l'espace culturel, l'espace social en général, et que très souvent, être un intellectuel, c'est un peu être du côté d'écrire sur les écrivains, écrire sur les artistes, écrire sur les peintres, etc. Que moi, mon rôle que je me suis donné, étant quelqu'un qui lit très peu de littérature et très peu de poésie, etc., c'est d'aller le plus loin possible dans la déconstruction de ce genre de mythe, en vérité. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que je peux aller... Non, mais c'est pas contre ça. En gros, l'idée, c'est... Puisqu'on connaît tous ces discours sur la vertu de la littérature, sur la prise de conscience, sur les affects, l'identification, etc., jusqu'où est-ce qu'on peut les mettre en question et jusqu'où est-ce qu'on peut ne pas y adhérer ou interroger les choses qui sont derrière ou qui sont impensées. Enfin, moi, mon rôle a plutôt été ce rôle-là, parce qu'il y a tellement de discours qui disent l'inverse que ça ne m'intéressait pas tellement de le redire. Ensuite, c'est vrai que le principe de l'art impossible, une des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que... On peut faire une théorie moniste des productions culturelles, c'est-à-dire est-ce que toutes les productions de la culture doivent être soumises à la même modalité critique, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on doit nécessairement aborder la danse, l'opéra, le théâtre comme la littérature comme la poésie comme la science sociale, etc. Ou est-ce qu'on pourrait identifier au fait des fonctions spécifiques des arts en fonction de leur médium, ou en fonction des types de publics, ou en fonction des types de choses qu'elles transmettent. Et peut-être que ce serait une erreur de forcément dire à un danseur de faire pareil qu'un romancier, ou de faire pareil qu'un poète, ou de faire pareil qu'un sociologue. Et je pense que ça, c'est une bonne question, en vérité. De fait, c'est la question que pose Sartre dans Qu'est-ce que la littérature au début, où il dit qu'effectivement, en fait, il faut opposer le monde des significations et le monde des sens, des signes, etc., ou les affects, je sais plus ce qu'il dit. Mais en gros, voilà, pour lui, la littérature, elle a affaire à des significations, et donc elle doit prendre en charge le monde, et donc elle doit être ce qu'il appelle engagée. Et c'est en ça qu'elle a un rapport différents au public, à l'action, aux affects, on pourra en parler.
Dès qu'on nomme les choses par écrit, par exemple, on les transforme. Les nommer, c'est les transformer. Et donc, il faut choisir quel type de transformation on opère en les nommant en signes dans un livre.
Voilà, il dit même la phrase « nommer, c'est montrer, montrer, c'est changer ». Alors, en fait, cette phrase...
C'est très sartrien, finalement.
Ouais. Et donc, lui, en fait, il évacue un petit peu la question politique de la peinture, de la poésie même, parce qu'il dit que les poètes, en fait, n'ont pas de rapport à la signification, qui font des mots, pas un instrument, mais qui font des mots une finalité, etc. Donc, ils considèrent qu'eux n'ont pas à se poser la question de l'engagement, en vérité, de la fonction politique. C'est pour ça que c'est cette phrase sur Guernica qui n'a jamais rallié une conscience à la cause espagnole. Ils ne penseraient pas que la littérature pourrait le faire. Il dit même, Sartre a raison, qu'il ne peut pas y avoir un bon roman antisémite, par exemple, ça ne peut pas être possible. Je pense que c'est important de dire ça. Je pense qu'en même temps, une chose qu'on sous-estime toujours, c'est les dispositifs culturels. C'est-à-dire qu'on parle toujours un peu, quand on parle du monde, un peu généralement, on va parler de la guerre, on va parler de la politique, on va parler de l'homophobie, on va parler de tout ça, qui sont des questions très, très importantes, évidemment. Mais quand même, une chose que moi m'a beaucoup frappé, c'est les lectures de Bourdieu et cette idée selon laquelle, au fond, l'un des lieux essentiels de la domination dans nos sociétés, c'est la domination culturelle. C'est-à-dire, au fond, le fait que dans les sociétés où la domination, la grande misère, en gros, a été abolie et les distances économiques ont été relativement resserrées par l'État-providence, la redistribution, etc., tout ce qu'on peut critiquer, la bourgeoisie a recréé des distances et des distances d'autant plus fortes qu'elles ne sont pas fondées sur des phénomènes objectifs et de manque en plus, qui sont les phénomènes de la honte culturelle, les phénomènes de l'intimidation, de la distance à la pratique, du goût d'être différent et d'avoir accès à des biens auxquels les autres n'ont pas accès. Ce qui fait que quand tu parlais au début de l'efficacité des œuvres, je dirais que d'abord, d'un point de vue sociologique, les œuvres sont très efficaces de façon conservatrice, voire de façon réactionnaire. C'est-à-dire, en fait, les tableaux, la littérature, les belles couvertures de livres, etc. La première fonction qu'elles ont, c'est de désigner les élus et les déchus, de ceux qui vont se sentir intimidés, ceux qui vont pas se sentir intimidés, ceux qui vont se sentir remettre à leur place, ceux qui vont se dire « Ah bah c'est formidable, etc. et je sais lire ce tableau, je sais ne pas être intimidé par cette toile blanche, etc. » Je pense que d'abord, il y a une efficacité politique des œuvres d'art qui est une efficacité conservatrice, qui est une efficacité de ratification de la frontière qu'installent toutes les institutions culturelles entre ceux qui se sentent légitimes à venir, alors que c'est gratuit, et ceux qui, au contraire, se sentent totalement illégitimes et rappelés à la condition.
Je trouve que les analyses de Bourdieu dans la distinction sur qui ne sont pas seulement une critique de l'inégalité devant l'art, d'accès à l'art selon les classes sociales, mais une critique, on peut dire, de la fonction artistique, de la fonction esthétique. Qu'est-ce que c'est que la fonction de l'art? C'est, d'ailleurs, dans la distinction, les deux grands moments sont l'analyse du système scolaire et l'analyse du goût culturel. Les deux fonctionnent de la même manière. Le capital culturel qui est à l'œuvre dans le système scolaire et l'élimination systématique des enfants des classes populaires du système scolaire au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, et l'art comme instauration et perpétuation d'une distance entre ceux qui y ont accès et ceux qui en sont exclus, et soit ne le savent pas, soit le revendiquent en disant « c'est pas pour nous » ou « j'aime pas ça » de la même manière que le système scolaire. La critique de Bourdieu que tu poursuis et que tu approfondis, c'est pas une critique de « il y a une inégalité dans l'accès à l'art », c'est « l'art, c'est l'inégalité ». Ce qui définit l'art, c'est précisément d'introduire cette inégalité, et on voit que la notion d'inégalité, d'ailleurs, n'est pas très pertinente, puisque si on s'en tient à l'inégalité, les inégalités, c'est qu'on n'a pas une théorie du capital, qu'on s'en tient à au seul aspect économique de la notion de capital, et que une théorie du capital qui doit prendre en compte la distribution en classe sociale dans le monde dans lequel nous vivons doit intégrer cette dimension du capital culturel, c'est-à-dire de l'école et du rapport à l'art et à la disposition esthétique.
Ce qui fait que même Bourdieu pose une question qui, moi, je pense, est une vraie question en vérité, qui est jusqu'à quand le sentiment esthétique n'est pas le sentiment de la distance de classe. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on goûte quand on va dans un musée, ou quand on écoute une symphonie, ou quand on est dans un concert, on est assis, ou qu'on lit un livre, on est intimement dans son canapé, alors etc. Au fond, ce que Bourdieu dit, c'est que la disposition qui rend possible le plaisir esthétique, c'est une disposition qui renvoie à la distance, à la nécessité, à la capacité de prendre les choses pour leur propre fin, à la capacité à s'affranchir de la notion de fonction pour voir les formes, etc. Et qu'au fond, cet habitus-là, le plaisir esthétique suppose un habitus, qui est en fait la prolongation dans le domaine esthétique de l'habitus bourgeois, de la distance à la nécessité, de l'arrachement à l'urgence, qui s'oppose à l'habitus populaire, comme au contraire habitus fonctionnel, habitus de la nécessité, habitus de la privation, etc. Ce qui a pour conséquent qu'au fond, quand on a un goût esthétique, ce qu'on goûte, en fait, c'est la distance avec ceux qui ne sont pas là, et c'est le goût, le plaisir d'être de ceux qui goûtent et qui sont capables de goûter, parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas goûter, et jusqu'à quand, jusqu'à quel point est-ce qu'en fait ce qu'on appelle le plaisir esthétique n'est pas un plaisir sociologique, en vérité, jusqu'au fond, ce que ne pourrait pas goûter le paysan, quoi. Au fond, dans nos sociétés, on n'a pas beaucoup inventé un art autonome par rapport à la logique des classes. Moi, je pense que c'est aussi ça que veut dire Bourdieu.
C'est pas qu'il n'y a pas un art autonome par rapport à la logique des classes, c'est que l'art, c'est la logique des classes, au fond, si on suit l'analyse de Bourdieu et la manière dont tu la relis, réinterprètes et radicalises.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on critique l'art au nom de sa collaboration avec la logique de la bourgeoisie, en vérité, de la bourgeoisie culturelle, on peut être accusé de populisme, et on oublie que flatter les attentes de la bourgeoisie culturelle est autant populiste que flatter les attentes des ouvriers ou des paysans, sauf que c'est pas le même peuple, mais paradoxalement, c'est pas la même classe, et donc pas le même peuple. Et donc, quand on vise comme ça l'idée de qu'est-ce que ce serait un art qui serait autonome par rapport à l'expérience bourgeoise du monde par rapport à l'esthétique bourgeoise, évidemment, c'est une question, à mon avis, très, 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 très importante. Ouais. Après, sur la question de la honte et des affects transformateurs que peut produire la littérature, que tu posais là sur la question de la honte ou sur les livres d'Edouard et tout, c'est vrai, je ne nie pas du tout la question que moi je pose quand même à la fin. En gros, je pense que du point de vue des effets politiques d'une œuvre, on trouvera toujours plutôt des effets d'abord dans ce qui est lors du langage. C'est-à-dire qu'en gros, attendre des effets politiques de peinture, d'opéra, de danse, etc., me paraît quasi impossible. Et c'est pour ça, au fond, moi, que maintenant, je crois assez à ce que disait Pina Bausch quand elle disait, au début de ma carrière, je voulais bousculer mon public quand je faisais une chorégraphie ou une dramaturgie, etc. Mais maintenant, ce que je veux juste, c'est leur donner des moments d'amour pur. En fait, il y a cette dimension que je crois qui est un peu vraie. C'est que dans les arts plastiques, en vérité, qui sont des arts de l'absence de mots, donc il faut des mots pour expliciter, je ne crois pas qu'on peut trouver une possibilité de faire quelque chose de l'ordre de la politique et de la déstabilisation, et qu'il faut mieux chercher en fait des satisfactions purement de divertissement esthétique, tout en sachant qu'en fait, donc on ne fait pas autre chose que ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être un loisir de classe.
Mais après, oui, quand Peter Handke écrit sa pièce « Outrage au public », c'est très violent, c'est très radical, mais simplement, c'est outrage au public du théâtre qui est dans le théâtre, qui a payé ses places et qui vient se faire insulter comme une sorte de couche supplémentaire du narcissisme d'écouter l'acteur qui lit le texte d'un auteur qui met en question ce public-là. Donc, et ce sont de toute façon les mêmes classes sociales qui viennent se faire outrager par ce texte outrage au public que celles qui viennent la semaine suivante voir un autre spectacle. Donc, au fond, ces dispositifs-là l'emportent surtout toutes les intentions, au fond. Mais il y a une chose qui m'a frappé dans mon livre, je crois que c'est dans Principe d'une pensée critique, il y a un texte sur Paul Celan, le grand poète allemand, qui écrit après Auschwitz, dans la dénonciation d'Auschwitz, dans des poèmes énigmatiques qu'il faut décrypter, déchiffrer. Et je montre comment, dans ces poèmes-là, à travers l'interprétation qu'on a donnée, le grand livre de Jean Bollack, qui a fait un livre superbe sur Paul Celan qui s'appelle « Poésie contre poésie », je montre comment il y a une radicalité politique de Celan pour qui la poésie lyrique, Goethe, Hölderlin, Rilke, etc., a participé par l'idée de la langue allemande, de la culture allemande, a participé à l'extermination, au nazisme, à l'extermination, malgré elle, bien sûr, mais ça faisait partie du dispositif de la langue germanique, etc. Et Celan écrit contre cette langue-là et il défait la langue allemande, la refait dans des poèmes qu'il faut déchiffrer, décrypter, passer à travers la couche d'énigmes, d'énigmatisation que produit le poème. Et tu t'en prends, pas à moi, mais ni à Jean Bollack, mais un peu à Celan, en disant si on fait une poésie qu'on veut politique, radicalement politique, du côté des exclus, du côté de ceux qui n'ont pas de droit à la parole, du côté des laissés pour compte de l'histoire, mais que pour y accéder, il faut une couche d'interprétation, c'est-à-dire Jean Bollack qui les lit, les traduit, puis Didier Ribon qui rend accessible à un large public les analyses de Jean Bollack sur Paul Celan. Tu dis, au fond, ça reproduit le culte de l'art et de la littérature et ça n'a aucune efficacité. C'est comme si la bataille se jouait dans la langue et que cette bataille dans la langue effaçait les enjeux dans la réalité. Et tu dis, l'art éthique, l'art moral que tu proposes, doit se débarrasser de l'énigme, de l'énigmatisation, doit se débarrasser de l'implicite. Il doit être explicite, il doit être même explicatif.
En tout cas, ce qui est vrai, oui, tout à fait, c'est vrai que je pense que l'un des dogmes inscrits dans le champ littéraire ou artistique contemporain et qui est responsable d'une inauthenticité fondamentale de ces pratiques, il y a le fait, et alors qui est au centre vraiment de ces pratiques, qui est qu'être un écrivain ou être un artiste, c'est ne jamais dire, en vérité, c'est être du côté de l'implicite, être du côté de l'énigme, du côté du cachet, etc. Et qu'il y aurait quelque chose d'un peu vulgaire, en fait, dans le fait d'assumer, d'expliciter, de montrer, de dire les choses. Alors, on emploie des mots dans la critique pour mettre en question les écrivains qui font ça. On va dire, ils sont crus, ou ils sont vulgaires, ou ils sont pédagogues, etc. Alors, on sait, quand c'est dans une école d'art, on sait que dire un écrivain, tu es pédagogue, il a peur des critiques possibles. Il y a quelque chose de l'ordre d'un antagonisme entre l'art et la pédagogie, qui est en fait une manière, donc, d'empêcher les individus qui n'ont pas les codes de s'approprier l'œuvre d'art et donc de la réserver à ceux qui l'ont appris ailleurs, c'est-à-dire en fait à ceux qui ont eu des écoles ou des parents qui les ont enlevés dans le monde de l'art. Donc en fait, ça, c'est des dispositifs d'exclusion extrêmement puissants. Et je crois que à partir du moment où on fonde l'art sur une problématique de l'énigmatisation, en fait, on n'écrit pas des œuvres d'art, on écrit des œuvres posthumes, en fait, on écrit des œuvres pour interprètes. C'est-à-dire, en fait, on écrit des œuvres pour que des gens viennent après dire ce qui est dit, mais on ne dit jamais ce qu'on dit. Et ne disant jamais ce qu'on dit, en fait, on ne dit rien. On laisse des gens pouvoir peut-être après dire ce qui a été dit. Et d'autre part, en fait, on fait de son œuvre un exercice scolaire de déchiffrement qui va rester dans le système académique ou le système scolastique ou le système scolaire, etc. Et qui va donc plaire aux gens qui ont des dispositions scolaires, mais qui en aucun cas pourra produire des effets de transformation, des effets de prise de conscience, des effets de non-intimidation. Et comme je le dis par rapport à ce que tu dis sur Celan, pour moi, il n'y a aucune résistance possible dans le langage de Celan. Celan, c'est quand même extraordinaire. C'est quelqu'un qui va dire « j'écris pour la masse des sans-droits, j'écris pour les laissés pour compte, j'écris pour les etc. etc. » et puis qui se donne une forme esthétique telle qu'il faut des centaines d'années d'interprétation de Bollack, tes livres, etc. pour pour aborder qu'est-ce qu'il y a dans le poème.
Quelques dizaines.
Quel est l'intérêt, en vérité, de faire ce type de poème, si c'est pour dénoncer la collaboration de formes de poésie ou de lyrisme ou de chants nationaux, etc., au nazisme. On n'a même pas besoin d'écrire un poème. Un théoricien peut le dire, un littéraire peut le dire. Et c'est ça que je veux dire en général, c'est quand l'art se veut politique, on peut toujours le faire mieux en sociologie, en théorie ou en documentaire, en vérité. On n'a pas vraiment besoin de l'art pour montrer la collaboration de la poésie d'Hölderlin à une certaine forme de nationalisme grisant, à une espèce d'eau de l'Allemagne germanique.
Il n'empêche que les nationalismes, les fascismes, la construction de l'État national est souvent passée par l'élaboration intellectuelle, les littératures, la langue nationale portée par la littérature, par des idéologues. Donc, la bataille dans la langue n'est pas non plus dépourvue d'intérêt, de portée, puisque essayer de défaire la langue qui perpétue, parfois malgré elle, l'idée du peuple allemand, de l'âme allemande, s'en prendre à cette idéologie-là de la culture qui se véhicule dans la littérature, dans la poésie, dans la philosophie, Heidegger et tout ça, s'en prendre à ces dimensions-là de la langue. C'est une bataille dans la langue, contre la langue, d'une langue allemande refaite, reconstruite, contre la langue allemande qui a partie liée avec l'oppression et l'extermination. Il me semble, bon, laissons de côté le cas de Celan, qui en effet est particulier, mais il me semble que la bataille dans la langue, elle peut aussi passer par des écrits littéraires, poétiques et théâtraux. La preuve, c'est que à la fin de L'Art impossible, tu cites Brecht, La résistible ascension de Arturo Huy, où Brecht montre l'irrésistible montée du nazisme à laquelle on aurait pu résister s'il n'y avait pas eu le capitalisme, la corruption, etc. Et tu dis qu'il met des panneaux pour expliquer ce qui se passe, pour rappeler le contexte historique, etc. Donc ici, on arrive au contraire un peu de Celan. C'est pas énigmatisé, c'est explicité. Mais je ne suis pas certain que ce dispositif-là soit plus percutant, plus efficace, étant donné qu'il va voir le théâtre de Brecht, enfin en tout cas aujourd'hui, que la poésie oppositionnelle, le confrontationnel, puisque ce sont des mots que tu aimes, de Paul Celan.
Oui, je pense que la poésie de Celan n'est pas oppositionnelle. Mais par exemple, je pense que Victor Hugo, on peut prendre comme un exemple d'une poésie qui a pu créer un peuple ou une forme d'aspiration, etc. Ou Darwish, par exemple, sur la question du peuple palestinien. Donc en fait, on peut imaginer des formes esthétiques comme la poésie qui peuvent avoir des fonctions de production, de subjectivité résistante, etc. Même si je pense qu'effectivement, même la chanson, hein, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui est intéressant sur ce que tu dis sur Bollack, c'est que qu'à la fin, la croyance trop grande dans la langue en vient à dire que la question du nazisme, c'est une question de langue, c'est-à-dire c'est une question de langue contre langue. Et je crois qu'effectivement, en fait, la croyance dans les effets subversifs ou politiques de l'art, même conservateur en vérité, suppose toujours une forme de subjectivisme en vérité, c'est-à-dire de croyance que c'est dans la conscience qu'on change la société. C'est pas pour rien que Sartre croyait à l'effet de la littérature et cette phrase qu'on vient de dire, nommer c'est montrer c'est nommer et nommer c'est changer. Cette idée selon laquelle au fond, par la prise de conscience, par la réflexion, les individus changeraient et donc pourraient au fond amener à des transformations. Et ça c'est quand même une rupture avec tout ce que la sociologie depuis Durkheim ou Bourdieu a montré. Bourdieu s'est beaucoup battu contre le paradigme de la fausse conscience, c'est-à-dire l'idée selon laquelle en fait l'ordre social se perpétue parce que les gens se trompent ou parce que les gens ont une mauvaise représentation de la réalité qui suffirait de leur faire prendre conscience de la réalité pour qu'ils changent, puisque l'ordre social est de l'affaire de structure, affaire d'incorporation. L'école a un rôle beaucoup plus fondamental probablement que la prise de conscience, et même toi dans tes livres sur la honte, tu as pu montrer comment on peut avoir écrit sur la honte et réfléchi sur la honte et lu sur Genet, etc., et que ça n'empêche pas de l'éprouver, la honte, et de rougir et d'avoir honte et de se cacher d'origine sociale, d'origine sexuelle, etc., et qu'on sait très bien qu'en fait, même la prise de conscience d'un certain nombre de mécanismes n'empêche pas la reproduction par les corps de la légitimité, de la reconnaissance de la légitimité.
On peut le sentiment de honte est inscrit, ancré dans le corps, et donc il ne suffit pas d'en avoir conscience, l'inertie du sentiment perdure dans le corps, oui.
Voilà, je pense, moi, une des leçons de la sociologie, c'est que la reproduction du monde social, elle se fait beaucoup plus dans le registre de ce que Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire dans le registre des mœurs, des habitudes, des fonds d'une société donnée. On sait que, je l'ai beaucoup cité, mais Michel Alexander, dans son livre The New Jim Crow, qui peut raconter comment, quand les lois changent aux États-Unis sur la ségrégation en 62-64, avec l'abolition de la discrimination officielle, les lois Jim Crow aux États-Unis, ça n'empêche pas qu'un système de ségrégation dénié comme tel s'est reproduit à travers l'appareil carcéral, parce qu'en fait, avec des lois différentes, quand le système racial et culturel est ancré et identique, en fait, il se reproduit en utilisant des lois différemment pour pouvoir se reproduire. Et donc, en fait, la ségrégation des Noirs n'a pas du tout changé, en vérité. Peut-être qu'elle est même encore peut-être en un sens plus grave aujourd'hui, parce qu'elle est déniée, parce qu'elle n'est pas perçue comme telle, parce que le système culturel et les mœurs en fait, racistes se sont perpétués, malgré le fait que les lois et certaines formes de représentation d'État se sont transformées. Et donc, si jamais la croyance dans l'effet de la littérature suppose toujours un peu de subjectivisme, c'est-à-dire en pensant en termes de conscience, de prise de conscience, de réalisation, etc., ça amène encore plus à être un peu sceptique sur la valeur subversive de la littérature par rapport à d'autres formes de production culturelle, comme le mass-média, comme les jeux vidéo, comme le cinéma, comme le documentaire à la télé, peut-être même les sitcoms. Enfin, je ne sais pas, on pourrait imaginer que ce soit...
Oui, sauf que puisque tu parles du mouvement noir, on pourrait objecter qu'aux États-Unis, par exemple, le mouvement noir s'est accompagné d'une grande production littéraire dans laquelle les activistes... les gens qui se mobilisaient ont trouvé des affects, une énergie, des représentations. Je pense au roman de Ralph Ellison, au livre de Richard Wright, à James Baldwin, et plus récemment, évidemment, à Toni Morrison et d'autres auteurs. Mais lire James Baldwin, La prochaine voie, le feu, pour beaucoup de gens, ça a été quelque chose de très important, comme lire Richard Wright dans les années 40 et 50 a été tout à fait déterminant. Donc, il y a un passage où la fiction ajoute du mensonge au mensonge. En fait, il faut se défaire de la fiction pour aller vers la vérité. Mais la fiction fait apparaître des vérités que peut-être on ne verrait pas s'il n'y avait pas un écrivain qui allait chercher dans le détail de la vie quotidienne, dans justement le détail de la profondeur des sentiments, de ce qu'on éprouve, qu'est-ce que c'est qu'éprouver la violence du racisme, de la ségrégation, etc. Des écrivains ont parlé de ça et ont montré et on fait éprouver des choses que beaucoup de gens connaissaient, mais qui n'arrivaient pas à la surface publique, si on peut dire. Et par conséquent, dire que la littérature, la fiction ajoute du mensonge au mensonge, pourrait dire que la fiction fait apparaître aussi des vérités qu'il est bien difficile de faire apparaître, par exemple, par un discours sociologique, étant donné ce qu'est la sociologie. Aujourd'hui, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est une sociologie purement naïve, sans théorisation, sans réflexivité. Donc la fiction, si elle est conçue comme une tentative de faire surgir des choses, des dimensions cachées du monde, elle ajoute pour reprendre tes catégories vérité et mensonge, elle ajoute de la vérité, elle ajoute du vrai.
Je suis d'accord, je pense que je suis forcé de constater que tous les grands activistes ont toujours été très proches d'artistes et ont eu toujours envie qu'il y ait des œuvres d'art, Wikileaks, Assa Traoré, etc. Enfin, la question de la présence d'artistes avec Claire Tabouret pour Assa Traoré, Wikileaks avec Ai Weiwei. Enfin, je veux dire, il y a des nécessités. Alors moi, je pense de plus en plus, en vérité, que l'art joue un rôle de groupe de soutien, en vérité, l'équivalent d'un groupe de soutien, c'est-à-dire quelque chose qui porte la parole, qui porte l'image, qui fait qu'on se sent moins seul dans son combat, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une efficacité spécifiquement politique de l'art dans ce genre de combat, mais je pense que ça soulage la personne qui souffre dans son combat, une certaine forme de solitude, et que ça permet de se sentir moins seul. En vérité, moi, je le vois un peu comme un groupe de soutien. Mais sur la question qu'il y a des vérités dans la littérature, c'est tout à fait vrai. Mais l'action de la vérité, elle n'est pas suffisante pour valoriser une œuvre. Je ne sais pas comment dire, mais je pense qu'il y a une... On peut distinguer plusieurs types de vérités. Il y a des vérités qui sont phénoménales, c'est-à-dire des vérités qui sont de l'ordre de l'intime ou qui apparaissent, etc., que la littérature peut décrire, où tout le monde peut voir la pauvreté, l'exploitation, le féminicide, etc. Enfin, c'est des vérités qui sont données, qui sont objectives, avec lesquelles les gens peuvent plus ou moins les dénier, mais elles sont là, elles sont données. Donc ça, c'est des vérités qu'effectivement, des vérités de l'intimité, des vérités de la souffrance, etc. Mais les vérités politiques, c'est des vérités structurales, quoi. C'est les systèmes de pouvoir qui vont expliquer. C'est, par exemple, c'est pas seulement les inégalités, le clochard, la valeur du clochard, mais ça va être le capitalisme, la prédation, les systèmes d'exploitation, etc. La vérité qui permet d'accéder à une compréhension réelle du monde, elle est systémique, elle est organisée autour d'un certain nombre de systèmes, comme la distinction entre chez Bourdieu, etc., comme le système carcéral chez Foucault à propos de la prison, comme Jim Crow chez Michel Alexander, etc. Et ces systèmes, c'est pas vraiment affaire de littérature, c'est-à-dire la description réelle du fonctionnement du monde, de la prise de conscience de comment il fonctionne et des lieux de sa transformation, ça renvoie à la production de catégories comme système de pouvoir, qui à mon avis sont pas tout à fait affaire de littérature. C'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup moi, dans le monde de l'art, c'est la volonté de sauver ce type d'expérience, un peu comme vous le faites en fait paradoxalement, en vouloir absolument lier ça à la lutte ou à une rupture avec l'ordre capitaliste ou avec la mobilisation, etc. Je pense qu'on ne fait pas la révolution quand on fait de l'art, voilà, que ce soit clair. Et je pense que le moment esthétique est un moment de suspension, un moment de plaisir, un moment qu'on a le droit d'éprouver, etc. Mais il faut avoir conscience que ça n'est pas autre chose que ce que c'est et combattre tous les mythes qui sont donnés, comme quoi, qui viennent quand même très souvent de la bourgeoisie malgré tout, comme quoi l'art remplirait d'autres fonctions, ce serait l'universel. Alors voilà, jouer malheur, c'est universel, mais pas un Walt Disney, etc. Enfin, toutes ces formes de racisme de classe qui sont quand même très très présentes, me semble-t-il, et qui ont des conséquences en termes de financement public, par exemple, qui payent des impôts pour les plaisirs de qui. Et je pense qu'il faut quand même concevoir le fait qu'il n'y a pas de hors-monde, il n'y a pas de hors-monde de la domination, et que ces affects-là, on a bien le droit de les éprouver, mais qu'on ne fasse pas croire qu'on fait autre chose que ce qu'on fait, qu'on cultive l'humanité ou qu'on soit en train de faire la révolution quand on fait des plaisirs. Je ne dis pas qu'il ne faut plus jamais faire d'art, il faut lire mon livre et arrêter de faire de l'art. Ça serait absurde comme position. Et il y a beaucoup d'artistes que j'aime et sont mes amis, etc. Donc ça ne dit pas de faire de l'enjeu du tout. Par contre, il s'agit d'essayer d'aller le plus loin possible dans jusqu'où un raisonnement sociopolitique, disons éthique, amène les artistes à essayer d'être le plus conscient de leurs impensées, de leurs limites, pour ne pas mentir sur la vérité de ce qu'ils font et faire un art le moins non éthique possible. Voilà. Et à ce moment-là, mon objectif à moi, il est plutôt d'essayer de travailler avec les artistes, en vérité, pour essayer de les libérer d'implicites qu'ils ont en tête. Par exemple, cette obsession de l'implicite, cette obsession du non-pédagogique, cette obsession du caché, cette obsession de la fiction, etc., cette obsession de la dénégation. Je n'ai pas voulu dire, je ne mets pas de titre, etc. Bon, et je pense qu'effectivement, en donnant des clés sociologiques pour qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur ces impensées, peut-être, si on croit un peu à ça quand même, ils peuvent s'en libérer et qui sait inventer quelque chose qu'on ne sait pas comment ça s'appellera. Peut-être ça ne s'appellera plus de l'art, ça s'appellera autre chose et on l'inventera comme ça. Peut-être qu'il faut faire le deuil de l'art pour trouver autre chose.
Merci. Merci. C'est une belle perspective. Je vous remercie, Geoffroy de la Gannerie, pour cet échange très vif.
Merci
et
beaucoup.
Et je remercie aussi Didier Ribon.
Merci Didier. Merci beaucoup Didier.
Merci à
vous. Cet échange passionnant.
Merci Charlotte.
Au revoir tout le monde.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Vous avez entendu le podcast Guestbuch, Livre d'or, Libro degli ospiti. Retrouvez tous les épisodes et plus d'informations sur notre site internet www.francais.ethz.ch. À la prochaine.